La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine aux lettres de prison de Nelson Mandela, condamné à perpétuité en 1964 par le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud et libéré 27 années plus tard. Madiba est plus convaincu que jamais de la légitimité de son combat pour l'égalité entre tous les Sud-Africains.
Do not listen to anyone who says that you must give up the struggle against apartheid. Dear friends, it will not be long now before we see the end of the apartheid system.
À la fois optimiste, à la fois intransigeant, l'activiste Nelson Mandela n'a rien perdu de son éloquence lors de ses longues années d'incarcération avec ses camarades de l'ANC, du MK, sa branche armée. Si le prisonnier numéro 466-64 est libéré le 11 février 1990, il invite les militants anti-apartheid à ne pas baisser la garde tout en les rassurant sur une victoire prochaine. Ce combat de toute une vie est raconté dans ses mémoires. Mais la publication de ses lettres de prison évoque le prix personnel payé par l'homme, le mari, le fils ou le père. Un portrait intime de Mandela publié aux éditions Robert Laffont dans une traduction de Jean Guilloineau, son traducteur et biographe français. Bonjour Jean Guilloineau.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, biographe, traducteur de ces 255 lettres de prison rédigées de la main de Nelson Mandela. Alors qu'est-ce que ces lettres nous apprennent de nouveau sur le plus célèbre des prisonniers politiques du XXe siècle ?
À la fin de son autobiographie, il raconte ce séjour en prison, mais de façon, je dirais, extérieure. Là, l'intérêt, très grand intérêt, c'est que les lettres s'adressent à ses filles, à sa femme, à ses amis et aux autorités, directeurs de la prison, ministre de la Justice, président de la République. Et on a là une intimité du personnage à l'intérieur de la prison. Ce qui n'existait pas dans l'autobiographie. Et c'est en particulier les lettres à ses enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire.
C'est pour cela, Jean Guilloineau, que vous considérez que c'est le chapitre manquant des mémoires de Mandela.
C'est ça, c'est ça. Il y a deux lettres en particulier qui sont déchirantes. La première, c'est quand son fils aîné, qu'il a eu avec sa première femme Evelyne Tembi, est tué dans un accident de voiture au Cap. Et la deuxième, c'est lors de la mort de sa mère. Il demande aux autorités d'assister aux obsèques. Il veut bien avoir une escorte policière autour de lui. Il veut bien payer les frais. Et dans les deux cas, les autorités refusent. Et là, on sent le père et le fils très touchés dans sa solitude de prison. Les lettres les plus touchantes, c'est en fin de compte celles qu'il écrit aux autorités quand on sait que la réponse sera négative.
Et vous êtes vous-même extrêmement ému, Jean Guilloineau, en citant ces lettres. Bonjour Aurélie Oisan.
Bonjour Valérie.
Vous êtes l'heureuse éditrice française de ce projet éditorial phénoménal, puisque c'est quand même 10 ans de travail, 10 ans d'enquête pour rassembler cette correspondance. Comment justement, Aurélie, ces lettres ont-elles été rassemblées ?
Alors, il y a effectivement 10 ans d'enquête par une équipe américaine, une équipe qui travaille à la Fondation Mandela, mais aussi une équipe qui travaille avec des éditeurs américains. C'est une éditrice, Sam Venter, qui s'est chargée de collecter avec la Fondation des centaines de lettres. Voilà, il y a eu un choix de fait. Ils en ont choisi donc 255 qui sont aujourd'hui dans ce livre. Sur ces 255 lettres, il y en a plus de 200 qui sont inédites.
C'est justement la question que j'allais vous poser, puisqu'il faut expliquer à nos auditeurs que ce ne sont pas les premières publications des lettres Mandela. En revanche, là, c'est vraiment un travail exhaustif, hein, vous l'avez dit, avec éditorialisé, puisqu'il y a, ce choix de 255 lettres, mais avec quand même de nombreuses lettres très inédites.
Oui, voilà, il y a plus des trois quarts des lettres de ce livre qui sont inédites. Il y avait aussi eu la publication de certaines lettres, mais par extrait. Or, ici, elles sont complètes. Elles ont toutes été appareillées. Il y a des notes, il y a un glossaire, on sait exactement à qui Nelson Mandela écrit.
Donc c'est au fond plus qu'un chapitre, hein, oui. manquant des mémoires, Jean Guilloineau.
Oui, j'ai envie d'ajouter qu'en plus, dès qu'il est arrivé à Robben Island, il avait des carnets et il écrivait le double des lettres qu'il envoyait. Et ça, je pense que ça a été aussi un des endroits où on a retrouvé des lettres. Mais il s'en servait quand, par exemple, il n'avait pas de réponse à une lettre qu'il avait envoyée 6 mois plus tôt, à un ami ou quelque chose. Il allait voir dans ses carnets, il recopiait la lettre et il l'envoyait une nouvelle fois.
Mandela produisait lui-même ses propres oui. archives. Un portrait intime du prisonnier politique Nelson Mandela se dessine à la lecture de cette correspondance. Écoutons justement le point de vue de l'éditrice américaine Sam Venter et de Vern Harris, le directeur de la Fondation Mandela.
The world generally has a view of Nelson Mandela as being this cuddly teddy bear or this grandfatherly person.
Tout le monde a tendance à voir Nelson Mandela comme un nounours ou un papy. Parce qu'il était grand-père quand il est sorti de prison, mais quand il y est entré, il était un vrai combattant de la liberté qui avait pris les armes pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Et ses lettres montrent presque tous les aspects de sa personnalité et surtout sa ténacité.
What this book will force readers to do is to engage with and reckon with
Ce livre forcera les lecteurs à prendre en compte et collaborer avec un Madiba qu'on ne trouve pas facilement dans tous les documentaires et les livres qui ont déjà été publiés. Il s'agit de l'homme derrière le personnage public.
He was always the person that he was. He made decisions and I believe that he survived prison.
Il a toujours été lui-même. Il a pris des décisions et je crois que s'il a survécu à la prison, c'est parce qu'il a pris certaines décisions pour ne jamais abandonner sa dignité. Pour ne jamais céder aux autorités, pour ne pas être lâche. C'est un homme fier qui est entré en prison, et c'est un homme fier qui en est sorti.
I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die, to die, to die, to die.
La fierté de Nelson Mandela, c'est ce que nous allons entendre tout au long de cette émission, au son des lettres de prison de Nelson Mandela et de nos archives sonores. Mais revenons sur le contexte politique dans lequel Nelson Mandela est condamné à perpétuité lors du procès de Rivonia. Écoutez la réaction de sa femme Winnie après l'annonce du verdict. Nous sommes le 12 juin 1964.
Madame Mandela, que ressentez-vous aujourd'hui alors que votre mari a échappé à la peine de mort?
Je suis un peu soulagée. Ça aurait pu être pire. Ses défenseurs et moi, on s'attendait à la peine de mort pour tous les accusés.
Pouvez-vous nous expliquer, avec vos propres mots, pour quelle raison votre mari en est arrivé là?
Mon mari s'est battu pour la libération de la population africaine, pour l'égalité de tous les groupes raciaux de ce pays.
Pensez-vous que ces revendications, la liberté du peuple noir en Afrique du Sud, ont été défendues par la lutte armée sous l'impulsion du Parti communiste, qui profite de ce mouvement pour diffuser ses propres intérêts?
Dans ce pays, c'est une question à laquelle il m'est difficile de répondre. Car dans ce pays, la répartition des richesses serait bénéfique pour la population africaine. Les communistes sont pour ce partage de la richesse. Et nous marcherons main dans la main avec toutes les organisations qui défendent les intérêts des Africains.
As far back as 1964,
Dès 1964, quand j'étais l'un des accusés lors du procès Rivonia, et à la suite duquel j'étais condamné à prison pour la vie, à perpétuité, j'ai déclaré que je suis contre la domination des Noirs, tout comme je suis contre la domination des Blancs. Nous ne pensons pas en termes de couleur. Nous n'avons pas de blanc ni de noir. Nous avons l'Afrique du Sud. Et cette optique veut qu'il n'y ait pas de distinction quand il s'agit de Sud-Africains sur la base de leur race et de leur couleur.
La voix de Nelson Mandela dans la Marche du Monde, premier président élu de l'Afrique du Sud démocratique. Il rappelle combien il est resté fidèle au peuple africain et à son idéal nationaliste, pour lequel il était prêt à mourir si nécessaire. C'était ses derniers mots lors du procès de Rivonia, Jean Guilloineau.
Oui, il avait d'abord écrit « C'est un idéal pour lequel j'ai consacré ma vie et pour lequel je suis prêt à mourir ». Et comme on s'attendait à une condamnation à mort, son avocat, Joe Slovo, lui a dit « Il ne faut pas dire que t'es prêt à mourir parce que tu leur donnes l'autorisation de te tuer. Ajoute quelque chose. » Et il a ajouté « si nécessaire ». Et ce qui est intéressant, on a entendu la phrase là, c'était la dernière phrase de son intervention lors du procès de 64. Et en 90, il sort de prison, il arrive au Cap, il monte sur le balcon de l'hôtel de ville et il commence un discours par cette phrase. Comme si toutes les années de prison n'avaient pas existé, et comme s'il disait où est-ce qu'on s'en était arrêté, et il recommence.
Alors revenons justement où est-ce qu'on s'en était arrêté. À partir du moment où Mandela est incarcéré, dans quelle mesure, au début, a-t-il le droit d'écrire, Jean Guilloineau ?
Alors au début, ils ont le droit à une lettre par mois de 500 mots. Et une lettre dans laquelle énormément de mots sont interdits. Il est interdit de citer des codétenus, il est interdit de citer des partis politiques, il est interdit de etc., etc. Car derrière, il n'y a pas seulement le courrier d'arrivée qui est censuré, mais il y a le courrier du départ qui est censuré, et avec beaucoup de violence et d'incompréhension très souvent.
Alors rappelons que sa femme, sa jeune épouse Winnie Mandela, est une travailleuse sociale. Elle a bien sûr assisté au procès. Elle a 28 ans, alors que Nelson en a déjà 46. Ils sont mariés depuis 1958, ils ont deux petites filles. Comment vous pourriez définir leur relation, Jean Guilloineau ?
Écoutez, il y a un journaliste dans Le Monde qui disait, quand il sort de la prison, Mandela tient Winnie par la main, alors qu'ils la connaissent à peine. Ils se sont rencontrés en 58, ils se sont mariés en 58, elle était enceinte de 3 mois. La première fille est née en 59, il est passé dans la clandestinité. La deuxième fille est née en 60. Et en 62, il a fait le tour de l'Afrique, il est allé à Londres, etc. Il a été absent 6 mois. Il est rentré le 5 juillet 62 et le 5 août, il était arrêté. 62, 5 août 62, et il est ressorti le 10 février 90.
L'exil, ici, ça revient vraiment au même qu'être en prison. C'est être en prison à ses propres frais. C'est un isolement complet. Et c'est très difficile d'être loin de ses amis et d'être complètement isolé intellectuellement. Être dans un endroit comme celui-ci, où vous ne pouvez pas interagir avec votre communauté, c'est quelque chose de vraiment très dur. Et bien sûr, le plus dur, c'est d'être sans mes enfants, de ne pas avoir la chance d'accomplir son rôle de parent, comme le font tous les autres parents dans les sociétés démocratiques. La plupart d'entre nous n'ont pas cette chance d'être présents pour nos enfants.
Et pour l'avenir, pensez-vous être libéré un jour ?
Bien sûr, j'en suis persuadée. C'est d'ailleurs pour ça que, malgré l'exil, je crois vraiment en notre libération. Et être en exil, c'est un rappel du malaise de notre société. Nous sommes tous quasiment en prison, même dans notre pays. C'est juste une plus grande prison. Tous les autres groupes opprimés comme nous. Nous sommes tous réellement des prisonniers dans la grande prison qu'est l'apartheid.
La douce voix de Winnie Mandela dans La Marche du Monde. Oui. Épouse de Nelson, mais aussi activiste et régulièrement arrêtée et incarcérée. En 1969, elle est d'ailleurs accusée de reconstituer l'ANC, c'est-à-dire l'African National Congress, qui est alors interdit en servant d'intermédiaire avec son mari. Jean-Guy Loineau, comment cette dimension, c'est-à-dire ces deux activistes, lui en prison à perpétuité, au départ il est condamné à perpétuité, et elle régulièrement arrêtée, comment cette dimension-là s'exprime dans les lettres ?
Quand elle dit là qu'elle est en exil, il faut comprendre qu'elle est en résidence surveillée à Brandfort, qui est une toute petite ville de l'État libre d'Orange, près de Bloemfontein, et qu'on l'a mise là un jour dans cette maison. Elle n'a pas de métier, elle n'a pas de revenus, et elle n'a pas le droit de sortir de la superficie de la commune. Mais il y a un travailleur qui lui est proposé à côté, mais elle n'a pas le droit d'aller, de sortir de la circonscription de Brandfort. Et elle est harcelée par la police pendant tout le temps d'emprisonnement de son mari, et elle a énormément de difficultés à survivre. D'ailleurs, c'est des amis du Natal, Fatima Mère en particulier, qui prendront en charge les enfants à certains moments. Elle est ou en prison, ou en exil, ou harcelée dans sa propre maison.
Et donc, ils s'écrivent, et quand Nelson Mandela écrit à Winnie, il y a des moments où les lettres ne partent pas, il y a des moments où Winnie elle-même est incarcérée, il y a cette grande période d'exil. Et en plus, vous l'avez précisé, les premières années, il a à peine le droit de lui écrire. Est-ce que la communication, au fond, est totalement coupée entre les deux ?
Ben non, apparemment, dans le courrier qu'on a là, dans le volume des lettres de prison, il y a des lettres régulières. Alors, plus le livre avance, enfin plus le temps passe, si j'ose dire, le temps de l'emprisonnement, plus le nombre de lettres augmente.
Mais très souvent, Mandela écrit à Winnie en lui disant « Je t'ai déjà écrit il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois, et je te réécris parce que tu ne m'as pas répondu et que je sais que tu ne m'as pas reçu, tu n'as pas reçu cette lettre. »
Voilà, oui, parce que ça faisait partie des lettres, en particulier évidemment parce que les autorités savaient qu'il y avait un lien affectif très très fort. Et c'est une des choses que Mandela explique dans une lettre, que le priver de ses enfants et de sa femme, c'est une façon, pas tellement d'interrompre la correspondance, mais c'est une façon de faire sur lui une pression intolérable, mais il résiste et il continue malgré tout.
Et depuis sa cellule, Mandela écrit de nombreuses lettres à ses filles, aux filles notamment qu'il a eues avec Winnie, ses deux petites filles qui n'auront l'autorisation de venir le voir en prison qu'à l'âge de 16 ans. Et Aurélie Oisan, je rappelle que vous êtes l'éditrice française des lettres de prison de Mandela. Quelle lecture avez-vous fait de ces courriers ?
Chaque lettre, en fait, éclaire un pan de la personnalité de Mandela. Et il est vrai que les lettres à ses enfants sont très touchantes. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est quand il parle de leur éducation. En fait, il est enfermé depuis des années et il s'intéresse encore très très fort à l'éducation de ses filles. Là, on a des lettres de février 69, une lettre dans laquelle il écrit « Quand tu seras médecin ou professeur de sciences, quand tu utiliseras tes connaissances, ta formation et ton talent pour aider ton peuple pauvre et misérable qui n'a pas la chance de progresser, tu lutteras pour ce monde nouveau. » Voilà, je trouve que l'importance de l'éducation pour ses enfants, pour avoir un rôle dans le monde, sont absolument bouleversantes.
Et puis bien sûr, il écrit à Winnie, nous l'avons dit de nombreuses fois. Il y a aussi des lettres de Winnie qui vous ont particulièrement touchée aussi en tant que femme.
Oui, bien sûr, il y a quand même des lettres d'une grande sensualité, un peu cachées. Mais c'est quand même, je trouve, très sensuel.
Je me souviens qu'il écrit à sa femme qu'il caresse. sa photo tout à fait. Dans sa cellule. C'est un moment extrêmement bouleversant aussi.
Il garde très précieusement la première lettre qu'il a reçue d'elle et qu'il la relit parce que c'est pour lui une sorte de réconfort, de contact, si j'ose dire, avec sa femme.
Alors précisons que les lettres de prison de Nelson Mandela sont classées de façon chronologique dans le livre, vous l'avez précisé, Jean-Guy Loineau. Et l'essentiel des lettres sont bien sûr celles écrites à Robben Island, prison de haute sécurité, entre juin 1964 et mars 1982. Jean-Guy Loineau, au quotidien, Mandela, c'est un prisonnier politique de l'ANC. Il fait quoi au quotidien lorsqu'il est incarcéré? C'est quoi ces travaux forcés?
Alors, ce sont vraiment des travaux forcés parce qu'on va les occuper à travailler. Il y a une photo très célèbre où ils sont assis dans la cour de la prison de Robben Island. C'était tout à fait au début, on leur a donné une grosse pierre et un marteau. Il fallait qu'ils cassent la pierre pour faire des graviers. Bon, et puis les autorités ont vu que ce n'était pas possible. Et alors, on a ouvert un chantier qui était une carrière de chaux, qui est une roche blanche friable, et avec des pioches et des baramines, ils ont débité des blocs de chaux. Et l'autre activité physique, c'était, on les réunissait sur une plage, et ils devaient tirer à main nue des algues très longues, et ils devaient les tirer de la mer et les mettre à sécher sur les graviers, sur les plages, quoi.
Et en ce qui concerne les relations avec les autorités de la prison, écoutez le témoignage de son ami et co-détenu Mac Maharaj.
En prison, on travaillait à la carrière. Les prisonniers s'y rendaient à pied et nous étions encadrés de gardiens armés, deux devant, deux derrière et deux de chaque côté. Et un matin, les gardiens étaient particulièrement agressifs. Ils étaient déchaînés et hurlaient dans nos oreilles, « Marchez plus vite !» On avait l'impression qu'ils voulaient nous tabasser. Et là, les prisonniers ont commencé à murmurer aux uns et aux autres une consigne. Mandela dit qu'il faut marcher lentement. Moi, je me suis dit, mais pour qui se prend-il? Mes jambes me disent de marcher vite parce que je n'ai pas envie de me faire taper dessus. Et c'est là que l'on a vu Mandela se faufiler entre les prisonniers pour gagner le premier rang. Et d'un coup, je me rendais compte que j'avais ralenti l'allure. Pourquoi? Parce que le tout premier rang, emmené par Mandela, marchait doucement. Et donc, toutes les rangées marchaient doucement. Les gardes criaient, jusqu'à ne plus savoir quoi faire. Je donne cet exemple parce que c'est une chose de grimper sur une estrade et d'ordonner à ses troupes de se battre. Mais quand la bataille bat son plein, se comporter en vrai dirigeant, c'est s'assurer de la loyauté de ses troupes en s'exposant soi-même sur la ligne de front.
C'est Mandela qui donne le tempo et c'est Mandela qui s'impose comme leader, comme le chef et qui s'adresse au directeur de la prison au nom de tous les autres détenus politiques dans une très longue lettre datée du 22 avril 1969 adressée au ministre de la Justice. « Cher monsieur, mes camarades m'ont demandé de vous écrire pour vous demander de nous libérer de prison et dans l'attente de votre décision de nous accorder le traitement réservé aux prisonniers politiques, Mandela défend ses co-détenus, Mandela rédige un véritable réquisitoire contre l'apartheid, il poursuit ses études d'avocat, il étudie l'Afrikaans parce qu'il faut tenir en prison. »
Nous n'avons jamais perdu l'espoir. Le soutien que nous avons reçu, tant ici que de l'étranger, nous a donné beaucoup de force et beaucoup d'espoir. Oui, ce soutien était très clair quand nous étions dans le procès, à tel point que quand nous avons été condamnés, nous avons beaucoup de confiance et beaucoup d'espoir, car pour nous, il n'y avait pas de doute que, du point de vue moral, nous avions le dessus. Et ce soutien a été fourni durant toute notre incarcération. Nous avions donc la confiance de pouvoir retourner un jour.
La confiance de pouvoir retourner un jour auprès de ceux qui soutiennent le combat des Africains en Afrique du Sud. C'est aussi la confiance de retrouver ses amis. Mais qui étaient donc ces amis auxquels il écrit depuis la prison? Quel était ce monde dans lequel vivait Mandela avant d'être condamné à perpétuité, Jean Guilloineau?
C'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il écrit à des gens très variés. Des blancs, des juifs, des noirs, des métis, des indiens. Et je me suis rendu compte, en lisant et en traduisant les lettres, que du temps de sa liberté, alors que l'apartheid interdisait les relations entre ce qu'on appelle des races, Mandela vivait hors de l'apartheid, dans une nébuleuse d'amis qui, soit dans le Congrès national africain, soit dans le Congrès national indien, soit dans différentes organisations ou partis politiques, luttaient tous contre l'apartheid et ils avaient en commun à la fois une vision de la société et une très grande amitié. Et on retrouve ce personnage de Mandela enfermé dans une prison pour des raisons politiques parce qu'il est noir, et ça, il ne l'accepte pas. Il l'écrit à ses amis à l'extérieur, que je citais tout à l'heure, et c'est aussi une de ses forces, une des choses qui le soutient en prison.
Comment Mandela a-t-il tenu en prison? C'est ce que lui demande également le journaliste français Jean-Pierre Elkabbach lorsque Mandela vient en France après sa libération en 1990.
Qu'est-ce que vous faisiez en prison?
Est-ce que vous lisiez? Est-ce que vous écoutiez de la musique?
Oui, oui.
Oui, oui.
Nous avons écouté de la musique.
Quel compositeur?
Je pile des parce que le goût personnel est très confidentiel.
Mais nous sommes très bien renseignés sur RFI. La publication des lettres le confirme. En février 69, par exemple, Mandela se soucie déjà de l'avenir artistique de Hugh Masekela. Hugh Masekela qui recevrait une lettre de Mandela en 1985, tellement touché, il compose le fameux « Bring him back home », « Laissez-le rentrer à la maison ». Masekela, Bring Him Back Home, hommage à Mandela, la lutte anti-apartheid des artistes. Et si l'on veut parler du soutien que reçoit Mandela à travers des murs de la prison, même si les lettres ne lui arrivent pas forcément, même si les lettres qu'il envoie n'arrivent pas forcément à leur destinataire, il sait que les artistes sont de plus en plus nombreux à élever la voix contre l'apartheid. Jean Guilloineau.
Oui, il y a d'ailleurs des lettres très étonnantes où il écrit à des amis, où il évoque sa jeunesse à Soweto, où il y avait un très grand centre culturel, mais réservé aux Bantous, comme on disait, c'est-à-dire aux nègres. Et Mandela, il faisait de la boxe, et en même temps, il y avait des concerts, il y avait des, on dansait, et il raconte comme ça, il évoque avec beaucoup de nostalgie son enfance, sa jeunesse, quand il était adolescent et puis après un peu plus vieux, en dehors de ses activités politiques, il y avait une vie comme ça, très joyeuse, et il en a un regret, une nostalgie très très grande en prison.
One doesn't go
On ne va pas à la table des négociations si on n'a pas l'intention de faire des compromis. Mais il n'y aurait aucun sens à discuter avec le gouvernement si nous allons faire un compromis sur le principe d'un homme, une voix. Ceci n'est pas possible. Les discussions que nous avons eues avec le gouvernement la semaine passée nous ont donné de l'espoir. Mais ce n'est pas quelque chose au sujet duquel nous devons être romantiques. L'apartheid est toujours en place. Je n'ai pas le droit de voter. Je n'ai jamais voté.
Optimiste et intraitable, Nelson Mandela n'a rien lâché à sa sortie de prison. Un homme, une voix, c'est le principe non négociable avant de pouvoir démarrer les négociations. Mais ce sont des négociations qui avaient démarré en prison. Jean Guilloineau, des négociations secrètes.
Oui, il a quitté Robben Island au début des années 80 pour des raisons de santé. Il a été opéré de la prostate près du Cap. D'ailleurs, après, il a écrit à l'infirmière pour la remercier parce qu'elle avait été très gentille, une blanche bien sûr, elle avait été très gentille avec lui, donc il lui envoie une lettre. Et puis, il va aller dans une prison au nord du Cap, à Victor Wester, où on va l'installer dans la maison du directeur de la prison, ou d'un ancien gardien de la prison. Il y a une piscine, une pelouse, tout ça, c'est très très bien, parce qu'il reçoit le ministre de la Justice, Kobi Kutsi. Il peut pas, au début, il recevait à la prison, mais dans une cellule, on ne peut pas négocier. Et il va recevoir comme ça, il va être reçu dans la résidence officielle du président de la République. Et la fin des années 80, donc avant sa sortie de prison, on entame des négociations qui vont se poursuivre après. Et je voudrais ajouter aussi quelque chose, c'est que au début des années 80, va se passer dans le monde quelque chose d'extrêmement important. C'est le début de l'effondrement de l'Union soviétique. Et c'est donc la fin de la guerre froide. Et c'est là que les négociations vont commencer avec Mandela, parce que les Américains disent, c'est l'ambassadeur américain à Pretoria, qui dit au gouvernement, trouver un interlocuteur et commencer des négociations. Et donc, on va chercher Mandela, qui est l'interlocuteur en personne, et on va négocier avec lui. Et petit à petit, ça explique les changements de prison, et ça explique Victor Wester. On lui achète des vêtements, des cravates, des chemises, qu'il n'a plus, et il devient un interlocuteur politique à part entière.
Et la prison a construit le mythe Mandela,
voilà,
également.
En plus, c'est un mythe dans le monde entier. Dans les rues d'Afrique du Sud, il y a écrit « Free Mandela », mais c'est aussi dans les ghettos américains, c'est aussi en France, c'est partout dans le monde.
Aurélie Oison, pour accompagner la sortie en France des lettres de prison, vous avez choisi de solliciter des personnalités pour lire les lettres de Mandela, et notamment Lilian Thuram. Pourquoi a-t-il accepté ?
Pourquoi il a accepté ? Oh, il a accepté comme beaucoup d'autres, pour apporter justement sa pierre à l'édifice Mandela et pour célébrer quand même ce centenaire de la naissance de Mandela. Il faut lire les mots de Mandela, mais il faut aussi les entendre.
Vous nous présentez sa lettre ?
Bien sûr, c'est une lettre à Ismaïl Meer, un ami et un camarade de Mandela.
Indira est un bloc d'or pur et sa mort est un choc douloureux à supporter. Elle a été à la hauteur des attentes. Et elle a pris la mesure des innombrables défis qu'elle a dû affronter au cours de ces 18 dernières années. Peu de leaders mondiaux sont, comme Indira, révérés, mais appelés avec amour par leur prénom, par des milliers de Sud-Africains. Les gens qui ont mené des vies différentes semblaient l'avoir acceptée comme une des leurs. Et pour eux, elle aurait pu venir de Katomanor, de Soweto, du District 6. Cela explique pourquoi sa mort a été si éprouvante. J'avais espéré qu'un jour, Zami et moi, nous puissions faire le voyage jusqu'en Inde pour rencontrer Indira en personne. Cet espoir est devenu une résolution, en particulier après 1979. Les années ont continué à passer et l'âge à devenir menaçant. Mais l'espoir reste le même. Et ce voyage est un de mes rêves les plus chers.
Et le rêve de Nelson Mandela est devenu réalité. Merci Tirthankar Chandar de nous avoir rejoints.
C'est moi qui vous remercie.
Que pouvez-vous nous dire au fond de la réalisation de ce voyage au pays d'Indira Gandhi?
Ben écoutez, il est allé en Inde en 1990, je crois 2 ou 3 mois après sa sortie de prison. Et Rajmohan Gandhi, qui est le petit-fils du Mahatma, l'a accompagné. Je crois qu'il a visité, il s'est rendu à 3 villes, Calcutta, Benares et Delhi, bien entendu. Et à Calcutta, il était dans la maison du gouverneur.
Britannique.
Voilà, gouverneur britannique, mais maintenant les Britanniques sont plus là, donc c'est maintenant le pouvoir indien qui a investi ce lieu. Et Mandela était là. Et Rajmohan Gandhi raconte dans son bouquin quelque chose de très intéressant qui se passe le matin où Mandela va quitter Calcutta, il va voir tous les serviteurs, il va leur dire merci de vive voix. C'est quelque chose qui a beaucoup surpris les serviteurs, parce qu'en Inde, les serviteurs ne sont pas tellement habitués à ce qu'on les remercie. Et donc Mandela, Rajmohan Gandhi raconte aussi une autre histoire qui est très intéressante. À Delhi, il rencontre le président indien. Le président est un monsieur très pieux, donc ça se passe en 1990. Et le président, il y a cette conversation étonnante entre le président et Mandela. Le président dit à Monsieur Mandela, je sais que les négociations sont très dures, je suis allé prier pour vous ce matin. Et Mandela lui dit, merci Monsieur le Président, mais est-ce que je peux vous demander, la prochaine fois vous y allez, priez aussi pour Monsieur de Klerk.
Donc de Klerk, à l'époque avec lequel, bien sûr, Mandela négocie sa sortie de prison avec l'innégociable, un homme, une voix. Tirthankar, une question?
J'avais donc une question concernant les relations entre les intellectuels, les écrivains et Monsieur Mandela. Mandela était un proche ami de Nadine Gordimer, il connaissait bien André Brink.
Breitenbach.
Et pourtant, il y a peu de lettres, pratiquement aucune, sauf cette lettre à Alan Paton, qui est l'auteur de ce merveilleux pays,
Pleure
mon pays bien-aimé, paru en 1948. Comment est-ce que ça s'explique qu'on n'ait pas choisi, qu'on n'ait pas retenu des lettres avec des écrivains?
Je crois qu'il n'y en a pas eu d'échange épistolaire, comme on dit. Mais je voudrais citer un mot. Quand Mandela est venu à Paris en 90, Breitenbach est allé avec Daniel Mitterrand l'accueillir à l'aéroport. Et quand Mandela a vu Breitenbach, qui lui-même avait fait 7 ans de prison à Portsmouth où était passé Mandela, Mandela lui a dit « Je suis venu te chercher pour te ramener à la maison ».
Alors j'aimerais que l'on termine sur la mémoire familiale de ces longues années de prison pour Nelson Mandela, puisque c'est l'une des petites filles de Nelson et Winnie, Zamaswazi Mandela, qui signe la préface des lettres de Mandela.
Pour ma famille, c'est encore quelque chose dont il est très difficile de parler, parce que ça a été une période tellement sombre dans leur vie, et je sais que pour ma mère, ça a été très difficile sur le plan émotionnel de ne pas avoir de père, de grandir sans père, de grandir avec une mère qui était tout aussi active que lui, donc tout aussi absente.
Lettre à Zenani Mandela, sa deuxième fille, 1er mars 1971.
Your birth was a great relief to us. Only 3 months before this, Mommy had spent 15 days in jail under circumstances that were dangerous for a person in her condition.
Ta naissance a été pour nous un vrai soulagement. 3 mois plus tôt seulement, Maman avait passé 15 jours en prison. ce qui était dangereux pour une personne dans son état. Nous ne savions pas si toi et maman vous aviez souffert et nous avons été heureux d'être bénis avec une adorable petite fille en bonne santé. Te rends-tu compte que tu as failli naître en prison? Peu de gens ont connu cette expérience d'avoir été emprisonné avant leur naissance. Tu n'avais que 25 mois quand je suis partie de la maison. Et bien que je t'ai vue fréquemment par la suite jusqu'à janvier 1962, quand j'ai quitté le pays pour une courte période, nous n'avions jamais vécu à nouveau ensemble.
You will probably not remember an incident that moved me very much at the time and about which I never like to think.
Tu ne te souviens sans doute pas d'un incident qui m'a bouleversée à l'époque et auquel je n'aime pas repenser.
Towards the end of 1961, you were brought to the house of a friend and I was already waiting when you came.
Vers la fin de 1961, on t'a conduite chez un ami et je t'attendais quand tu es arrivée. Je ne portais ni veste ni chapeau. Je t'ai prise dans mes bras et pendant 10 minutes, je t'ai serrée contre moi. Je t'ai embrassée et nous avons parlé. Puis brusquement, tu as semblé te souvenir de quelque chose. Tu m'as repoussée et tu as commencé à chercher dans la pièce. Dans un coin, tu as trouvé le reste de mes vêtements. Après les avoir amassés, tu me les as donnés et tu m'as demandé de revenir à la maison. Tu m'as tenu la main pendant quelques instants en me tirant désespérément et en me suppliant de revenir. Cela a été un moment difficile pour nous deux.
You felt I had deserted you and mommy, and your request was a reasonable one.
Tu avais le sentiment que je vous avais abandonné, toi et maman, et ta demande était raisonnable. C'était tout à fait semblable aux petits mots que tu as ajoutés à la lettre de maman, le 3 décembre 1965. Dans laquelle tu disais « Est-ce que tu viendras à la maison l'année prochaine ? Maman ira te chercher avec sa voiture. » En 1961, à cause de ton âge, il m'était difficile de t'expliquer ma conduite et l'expression d'inquiétude que je voyais sur ton visage me hantait encore des mois plus tard.
It was particularly difficult for my mom and my aunt because they didn't have either of their parents around, so they were raised by.
Cela a été particulièrement difficile pour ma mère et pour ma tante parce qu'aucun de leurs parents n'était présent. Elles étaient donc élevées par quiconque les prenait en charge à cette époque. Et à cette époque, les gens ne voulaient pas vraiment être associés au Mandela parce qu'ils allaient eux aussi être soumis à un harcèlement constant, à la violence et subir les mêmes injustices que beaucoup d'autres. À cause du nom Mandela.
L'émotion de la petite fille de Nelson et de Winnie qui pose une question cruelle, c'est-à-dire comment peux-tu justifier de nous avoir sacrifiés à ton combat ? Jean-Guilouano, c'est aussi cette question qui est posée dans les lettres.
Oui, mais surtout de la part des enfants, bien sûr, parce que tous les autres membres de la famille sont associés à son combat et sont, même s'ils n'agissent pas obligatoirement directement, ses fils en particulier, enfin Makato, le fils qui reste, qui ne lui obéit pas d'ailleurs, et Mandela n'est pas content, parce qu'il devait aller s'inscrire à l'université de Forterre, où Mandela lui-même a fait ses études, université pour noirs, il faut préciser, les natives, comme on disait à l'époque. Et il a trouvé du boulot, il gagne de l'argent, et Mandela apprend ça, il est très très mécontent. C'est aussi ça, les rapports avec ses enfants, et l'impuissance, ce que on évoquait
père,
tout à l'heure, de son rôle d'éducateur,
bien
de
sûr.
Père, il ne peut pas le faire vraiment, quoi. Il peut l'écrire, mais les enfants font ce qu'ils veulent. Donc là, il a une impuissance assez grande, ce qui le met souvent en colère, d'ailleurs.
Et puis il y a aussi cet éclatement familial après la sortie de prison, Jean-Guilouano.
Oui. Alors, il a une petite fille qui a écrit un recueil de poèmes qui a été publié aux États-Unis. Et dans une lettre, il fait un commentaire littéraire des poèmes de sa petite fille, qui sont des choses évidemment sur la liberté. Bon, ils habitaient à Soweto, au 95 Orlando West.
Dans le ghetto, là où les manifestations étaient... Oui. Réprimé de la façon
c'est,
la
c'est plus un township, hein, c'est un township, c'est pas un bidonville, hein, c'est des maisons construites par la municipalité pour écarter les noirs des villes blanches. Et dans cette maison, quand Winnie est là, et ça transparaît dans les lettres, car Mandela écrit au ministre de la Justice, il écrit aux autorités policières, etc., parce que on crève les pneus de sa voiture, on lance des pavés dans les fenêtres, on casse la porte. Et alors il demande que son frère soit autorisé à venir habiter avec elle, mais le frère, il est dans le Transkei à Bizana, et on n'a pas le droit d'habiter où on veut en Afrique du Sud, même si on est noir, mais ça ne suffit pas. Il faut une autorisation pour habiter à Johannesburg. Et il demande que Winnie, on lui accorde un port d'armes pour pouvoir se défendre, parce qu'il y a aussi des petits nervis au service de la police qui l'attaquent et tout ça. Donc tout ça transparaît dans la correspondance avec Winnie.
Et cet amour... totalement idéalisé aussi dans ses lettres, parce qu'il faut tenir, va éclater au moment de la libération de Mandela.
Oui, il a dit une phrase quand il a été libéré en 90, deux ou trois jours après, un journaliste lui a dit « Depuis votre libération, quel est votre plus grand choc, votre plus grand souvenir ?» Et il a dit « Ça a été de me retrouver dans une chambre avec ma femme. » C'est incroyable de dire une chose publiquement, une chose pareille. Hein. Et je crois que ces deux époux n'étaient plus des époux. Ils avaient vécu un an ou deux ensemble 27 ans plus tôt, et elle était allée le voir en prison assez souvent, autant qu'elle le pouvait, mais il y a 1500 kilomètres depuis Johannesburg, dans l'île de Robben Island. Et donc, il n'y avait plus de possibilités, et puis, bon, elle a eu des amants, et puis, mais qui le lui reprocherait.
Mais d'une certaine façon, ils sont restés un couple de combattants.
De combattants, oui, mais pas un couple uni par le mariage, comme on dit à la mairie. Mais elle se battait d'une façon un peu différente de lui et le gênait beaucoup dans les négociations. C'est une des raisons qui explique leur divorce.
Merci Jean Guilloineau et merci Aurélie Oison et Tancar Chandar. Je rappelle aux éditions Robert Laffont les lettres de prison de Nelson Mandela et aussi Jean Guilloineau, votre biographie de Nelson Mandela dans la collection Petite Bibliothèque Payot, où l'on découvre à la fin un arbre généalogique.
Oui, j'ai trouvé dans un livre écrit par un pasteur Kosa du Transkei, il a écrit une histoire des Kosa à laquelle appartient Mandela, les Tembu plus exactement, et il l'a remonté à travers les récits, un arbre généalogique jusqu'au XVIe siècle.
Du grand combattant pour la cause des Africains. Non. Comment évoquer le combat de Nelson Mandela sans donner un extrait de la voix de Myriam Makeba, qui elle aussi l'a soutenue autant qu'elle l'a pu. Archive Mandela, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et mise en onde par Hugo Violas, avec la complicité de Laurence Sarniguet pour les archives sonores et Juliette Flamand, notre stagiaire. N'hésitez pas à retrouver l'article de Tirthankar Chandar sur notre page rfi.fr. Écrivez-nous, réagissez, podcastez cette émission à réécouter sur notre appli Pure Radio, c'est la vôtre.
aujourd'hui.